Bonjour à tous. En chinant un peu, je suis tombée sur un bouquin que j'ai acheté juste pour le titre. C'est aussi comme ça que je tombe parfois sur des pépites ou des navets. Weidmann, le tueur aux yeux de velours de Philippe Randa est une belle découverte. Né Philippe-André Duquesne en décembre 60, son père est l'écrivain prolixe Peter Randa. Militant actif de l'extrême droite, c'est au décès de son père qu'il se lance dans l'écriture. Et dès le début des années 80, entre dans la nouvelle génération des auteurs des éditions Fleuve Noir, dont son père, d'ailleurs, faisait déjà partie. Philippe Randa tient de son père, et ses goûts pour l'érotisme, la violence et la narration au présent sont très prononcés. Auteur d'une bonne centaine d'ouvrages, il écrit en 2008 sur Eugène Weidmann, une biographie romancée, remaniée plusieurs fois. Celle que j'ai eue entre les mains date de 2016 et permet de découvrir un être particulier que personnellement, je ne connaissais pas. Dans les années 30, l'Allemagne s'engouffre doucement mais sûrement dans le nazisme sous le verbe haut et juste d'un seul homme, Adolf Hitler. Il n'est pas encore à la tête de ce pays en grande crise et le peuple souffre et meurt de faim. L'économie est quasi inexistante. C'est dans ce contexte que Eugène Weidmann se lance dans une carrière de criminel. Il a dû savoir vivre et sans doute être trop éduqué pour mener à bien ses cambriolages. Il est décrit par ses victimes comme une sorte de gentleman très séduisant. Incarcéré, puis relâché une fois sa peine purgée, il s'envole pour le Canada où il retentera de faire main basse sur les biens d'autrui. Cette fois, c'est pour Paris qu'il s'envole et tente de mettre en place des coups pour s'enrichir. Ses rencontres successives lui permettent de mettre en place plusieurs affaires lucratives, mais elles tournent mal et des gens sont tués. Le pas est franchi pour le jeune Allemand aux yeux de velours qui va enchaîner les meurtres lorsqu'une occasion se présente. Arrêté par les forces de police françaises, c'est le juge Berry qui est en charge d'instruire l'affaire. Il est pointilleux ce juge et veut avant tout comprendre et être certain de la culpabilité de ses clients. Hôtel Ambassadeur, boulevard Haussmann. Eugène Weidmann est assis dans un large fauteuil et feuillette Match. Ce qu'il attend ? Une occasion. Se présentera-t-elle sous l'apparence d'une femme ou d'un homme ? Il ne sait pas et n'a pas de préférence. Il est en quête d'une proie et pour cela a savamment choisi son terrain de chasse. Le gibier s'y compose de nombreux d'étrangers, riches pour la plupart. « Vous êtes joli garçon, lui confirme le juge Berry. Vous n'avez jamais songé à séduire des femmes plus âgées que vous ?»« Jamais, monsieur le juge, ce n'est pas mon genre. » Weidmann semble même sincèrement peiné d'une telle question, comme s'il était plus infamant d'être un gigolo qu'un assassin crapuleux. Nous sommes donc le 13 juillet, veille de la fête nationale, quand Weidmann voit entrer dans le hall de l'ambassadeur une jeune femme qu'il identifie immédiatement comme une américaine. Une très jeune américaine dont le visage resplendissant de bonheur trahit sa joie de découvrir la France et surtout Paris. Weidmann se replonge dans la lecture de Match lorsqu'il aperçoit l'américaine assise à deux fauteuils de lui en train de le regarder. Échange de sourires, hochement de tête. « Vous êtes là pour l'exposition ?» lui lance-t-il subitement. Elle acquiesce. Weidmann lui demande aussitôt depuis combien de temps elle est à Paris. Et comme si elle n'attendait que cela, elle se lève pour venir s'asseoir sur le fauteuil à son côté. « Paris est formidable !» lui dit-elle. « Tout ici est formidable d'ailleurs. Les gens, les rues, les magasins. » Elle s'appelle Jean de Coven et est arrivée en France le 10 juillet après avoir traversé l'Atlantique à bord du Normandie. Le détail a son importance. Weidmann l'enregistre immédiatement. En riant, elle avoue à Weidmann que pour ses parents, chaque Français est un don juan qui se cache sous des apparences de poète élégant et charmeur. « Avec moi, vous ne risquez rien, je suis allemand », rétorque-t-il. Rencontrer un Allemand en France, éclat de rire de sa part à elle, nouveau sourire amusé de sa part à lui. Lui qui est maintenant persuadé que cette petite cruche d'américaine est la solution, provisoire, à ses ennuis financiers. Car ce 13 juillet, Eugène Weidmann a, en tout et pour tout, 30 francs sur lui. Voilà une heure que Jean de Coven et lui bavardent. Weidmann ne tient plus en place et finit donc par se lever en expliquant qu'il a un rendez-vous important mais qu'il aimerait beaucoup la revoir. Rendez-vous est pris pour le surlendemain. Une fois dehors, Eugène Weidmann décide de marcher pour faire le point. C'est la proie idéale. Elle est jeune, d'une famille aisée, a beaucoup de gens à voir mais n'en a pas encore rencontré énormément. Enfin, elle est chaperonnée par une tante qui pourra servir d'intermédiaire pour la rançon. Le juge Berry interroge. « Songiez-vous, après avoir quitté Jean de Coven, que vous pourriez être amené à la tuer ?»« Pas un instant, monsieur le juge. Je voulais l'enlever, c'est tout, sans la moindre violence. » Le jeudi 13 juillet, Ida Chacaine et sa nièce passent la journée à l'exposition universelle. Le lendemain, les deux femmes quittent l'ambassadeur en fin de matinée, puis se séparent. Elles ne se retrouveront que le soir, la tante étant invitée à dîner et Jean ayant son rendez-vous avec Bobby. La jeune américaine passe l'après-midi à faire les magasins en compagnie d'Annie Dunette, une amie française. Bien évidemment, Jean ne peut s'empêcher de parler à Annie du bel Allemand qu'elle doit rejoindre à 17h. Il est si beau que ça. Superbe, un véritable Apollon avec des yeux. Tu es amoureuse, ma vieille. Mais non. Les deux amis se quittent au carrefour Richelieu-Druot, une heure avant le rendez-vous fixé avec Weinmann. Sa seule préoccupation en venant au rendez-vous ce vendredi 14 juillet, c'est la somme ridicule qu'il a en poche. Il n'a même pas de voiture à sa disposition et lorsqu'il retrouve Jean, il lui explique qu'il a été obligé de prêter la sienne à un ami. « Il me la ramènera entre 19h et 20h, chez moi. Il faudra que je sois là-bas. » Ce mensonge a trois avantages. Il explique que Weinmann soit à pied, évite que Jean ne l'entraîne dans une boîte de nuit pour danser et surtout lui fournit le prétexte d'entraîner tout de suite la jeune fille à la Woolsey. Dans son récit, Weinmann parvient au moment de la confession, auquel le juge Berry prêtera le plus d'attention. Autant celui-ci a l'impression que tout est vrai dans ce que Weinmann lui a raconté du déroulement de sa rencontre avec Jean de Coven, autant ce qui va suivre sur les événements de la Woolsey pourra être sujet à caution. En revivant la scène dans le bureau du juge d'instruction, Weinmann bafouille, se répète, se lève de sa chaise tout en continuant à parler. Il explique comment, dès que Jean de Coven s'est retrouvé endormi, il l'a immédiatement attaché avec une corde. Puis ses nerfs craquant, il s'était effondré sur son lit, où il s'était endormi comme une souche, avant que les événements ne le poussent à la tuer. « C'était mon premier crime. Je ne l'avais pas voulu, mais je n'avais pas pu me contrôler. Cette fille m'aimait et j'avais tout gâché parce que je n'avais pas réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi par la suite. Je suis persuadée que j'aurais même obtenu qu'elle devienne ma complice dans la demande de rançon. » Weinmann ne peut terminer sa phrase. Il se met à sangloter et il est dans un tel état de trouble que lorsqu'il demande à aller aux toilettes, le juge Berry est heureux de cette pause. Ce qui subjugue le juge Berry, c'est la franchise et la sincérité avec laquelle Weinmann répond aux interrogatoires. Il ne cherche aucunement à se défendre de ce qu'on l'accuse, sauf qu'il n'est pas responsable. Son procès va déchaîner les passions. Ils sont nombreux à se déplacer aux assises, journalistes ou simples curieux. Ils seront tout aussi nombreux lorsque Eugène Weinmann sera guillotiné en place publique.
L'actu des bibliothèques.
Et si vous passiez les vacances d'automne à innover dans la création ? La médiathèque Saint-Exupéry de Montbonneau-Saint-Martin accueille jusqu'au 30 octobre Pauline de Chalandard, spécialiste dans l'art numérique. À ses côtés, vous pourrez participer à la réalisation d'une œuvre d'art en réalité virtuelle. Armée de tout ce qui est nécessaire, papier, crayon, ciseaux, feutre, tableau et de casque Hervé, vous serez au cœur de l'orchestre d'une modernité exemplaire. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans, il est préférable de s'inscrire au préalable. L'œuvre complète sera présentée dès le 18 décembre à la médiathèque lors d'un vernissage. Ça se passe à Montbonneau pendant ses vacances d'automne.